Bonjour, c'est un moment un peu particulier puisque j'introduis une nouvelle émission thématique sur Erdiwa. Une émission qui a vocation à vous donner des frissons. Des frissons, non pas de peur, ni d'excitation, ni de froid en ce mois de décembre enneigé, mais bien des frissons de plaisir, à vous faire saliver tout en vous faisant rêver. Je n'ai pas encore de titre définitif pour cette émission, mais sachez qu'elle parlera d'histoire culinaire. Et avant de vous proposer une première investigation culinaire, quelques mots sur cette envie de parler cuisine, terroir et rencontre. Eh bien, tout d'abord, je suis une cuisinière amatrice, mais passionnée, peut-être un peu détective, et surtout une gourmande tout à fait irraisonnable, et tout récemment, installée dans le Diwa, je suis restée assez émerveillée par la préservation des cultures, avec un grand S, puisque j'entends parler évidemment culture agricole. La Biovallée porte bien son nom, mais je suis aussi impressionnée par le foisonnement de la culture, celle qu'on désigne presque avec une majuscule, puisque je vous parle là d'art et de culture populaire, de spectacle, de musique, de dessin, de cirque, de théâtre, de thérapie. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de présenter cette émission. Évidemment, les histoires culinaires ne se racontent pas que dans la Drôme ni dans le Dauphiné, j'espère bien vous faire voyager un peu dans notre beau pays et dans sa gastronomie. D'ailleurs, on va démarrer aujourd'hui avec une histoire qui ne nous vient pas d'ici, mais d'un peu plus au nord de la France. Et avant de démarrer cette première histoire, puisque cette émission a vocation à parler de cuisine et de bien manger par le biais de rencontres, j'aimerais bien démarrer la première avec une courte citation de Serge Papagali, cet auteur, acteur et humoriste grenoblois qui a notamment signé la préface d'un livre que je vous recommande, Le Vercors passe à table, dont on aura l'occasion de reparler dans d'autres émissions. La citation est donc la suivante. « J'aime me nourrir de tendresse et d'affection. Mon physique n'en est pas la preuve tangible, mais tant pis, on est parfois mince à l'intérieur. » En revanche, l'alchimie d'une rencontre peut souvent se comparer à la préparation d'un plat, voire à sa réussite. Et oui, il nous parle bien de l'alchimie d'une rencontre, l'alchimie d'une recette. Et pour cette première, je n'ai pas d'invité à vous faire partager maintenant, mais nous aurons l'occasion à la fin de l'émission de revenir sur l'histoire culinaire que je vais vous raconter avec un spécialiste de la tarte tatin, puisque c'est de celle-ci qu'il s'agit. C'est l'histoire de mon enfance, celle qui m'a donné envie de faire cette émission, qui fait à la fois la renommée de cuisinière de ma grand-mère, mais qui également a fait couler beaucoup d'encre. L'histoire racontée par ma grand-mère parle bien des sœurs tatin, qui tenaient une auberge, dit-on, de bonne réputation. Et cette histoire évoque un jour de gros rush au restaurant où l'une des sœurs vit arriver l'homme qu'elle aimait secrètement dans le restaurant. Complètement décontenancée, retournée, elle renversa la tarte aux pommes qu'elle venait de confectionner.
Oh, ça perlipopette !
Et l'enfourna sans détourner son regard du bel homme. Elle ne se rendit donc compte de son erreur qu'une fois la tarte cuite.
« Oh là là, quelle gourde !»
Mais la bonne odeur qui s'en dégageait, dit-on, lui donna le courage d'en amener une part à son bien-aimé, qui, paraît-il, fut charmé par les talents culinaires de la sœur tatin. Et vous connaissez la suite.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et blablabla, et blablabla. Bla
bien, en faisant quelques recherches, notamment avec la découverte du site The Friends of the Tarte Tatin, j'ai découvert que la réalité avait été un peu modifiée par ma grand-mère.
On nous prend jamais au sérieux.
Les sœurs Tatin, Stéphanie et Caroline, tenaient bien une auberge à la mode Beuvron dans les années 1880. Elles étaient bien connues également pour leur beauté, mais surtout pour leur cuisine, leur accueil chaleureux et leur fameuse tarte aux pommes. On dit qu'un jour, sur le feu du coup de midi, Fanny alias Stéphanie, selon les versions, laissa brûler la tarte, ou la mit à l'envers dans le fourneau, ou encore oublia tout simplement la pâte et mit des pommes seules au four avant de rajouter cette pâte pour réparer son erreur. Bien entendu, d'autres versions existent, d'autres sources diront que c'est un client bavard et charmeur qui retarda l'une des sœurs, qui dans la précipitation en oublia la pâte, la fit tomber, la ramassa à l'envers, etc. C'est cet événement survenu, dit-on, vers 1898, qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Pour la simple raison qu'aucune trace des menus des sœurs Tatin ne subsiste. Et que pendant près de 30 ans, cette célèbre tarte se racontera uniquement à l'oral. C'est donc un critique culinaire, non français, puisqu'il se nomme Kernowski, un critique britannique, qui la mentionne dans un ouvrage en 1926, appelé « La France gastronomique ». Et il y raconte cette légende, si c'en est une, lors d'une conférence de presse l'année suivante, dit-on pour amuser les journalistes, ou peut-être parce que c'est une histoire vraie. La même année, le site The Friends of the Tarte Tatin est créé. Et c'est donc dans les années 50 que le célèbre restaurant parisien Le Maxim's, restaurant de stars, de businessmen, qu'il met la tarte tatin à sa carte, en reprenant la recette publiée 30 ans plus tôt par le critique culinaire Kernowski. C'est à ce moment-là que l'histoire prend aussi une autre tournure, puisqu'une une fable, une histoire parisienne se répand. On dit que le propriétaire du Maxim's, Louis Vaudable, aurait accompli l'exploit d'obtenir la recette secrète des demoiselles Tatin. On a donc déjà une histoire autour de cette tarte à l'époque, qui a déjà fait un bon tour de France, hein. Selon les versions, il aurait envoyé chez elle un espion, ou pour d'autres, il se serait fait embaucher comme jardinier. Je vous laisse imaginer d'autres options. Et puis, vous pouvez en imaginer de nombreuses, puisque rien de tout cela n'est vrai. Les sœurs, à cette époque, sont décédées déjà. C'est cependant le moment où la médiatisation de la tarte tatin démarre et que de nombreux journalistes s'emparent de la recette. Il la publie dans des magazines de cuisine et de pâtisserie, et souvent il l'adapte avec d'autres fruits. Vous pouvez trouver donc de nombreuses versions. Pour discuter donc de cette histoire poser quelques questions, j'ai invité donc Bernard Munoz, qui est le créateur du site The Friends of the Tarte Tatin, et qui connaît bien notamment l'historien Henri Delétang, qui est spécialiste de l'histoire de la Sologne et qui a notamment écrit, il y a déjà un certain nombre d'années, La Tarte Tatin, Histoire et Légende. Du coup, je voulais juste commencer par vous demander voilà, comment c'était venu cette envie de créer ce site, cet intérêt pour l'histoire, ou peut-être que c'est la rencontre avec Henri Delétang.
Oui, eh bien, j'ai grandi à la Motte-Beuvron, donc la tarte tatin, c'était très familier. En plus, nous avions des cuisinières fantastiques dans la famille et des repas de famille pratiquement toutes les semaines. Donc des tartes tatin, elle les faisait bien, j'ai appris à les apprécier. Et puis, après avoir fini mes études en France, j'ai eu une bourse d'études pour venir aux États-Unis, et puis je m'y suis fixé dans des emplois internationaux qui m'ont permis de voyager un petit peu à travers le monde. Mm-hmm. Et j'ai remarqué que la tarte tatin était un dessert populaire non seulement à la Motte-Beuvron et en France, mais partout. Et malheureusement, disons, l'art culinaire pour la préparer dans les règles, c'était un petit peu émoussé avec son émigration. Et très souvent, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, etc., lorsque je commandais une tarte tatin, ce qui m'était servi n'avait qu'une relation plutôt éloignée avec l'original. C'était décevant, il y avait toujours des problèmes. Mmh. Et lorsque j'ai vu passer un jour en regardant un petit peu l'internet sur la mode Beuvron, j'ai appris qu'un professeur que je connaissais, Henri de l'Étang, avait fait des recherches sur la tarte tatin. C'est un historien de formation qui a passé sa vie en Sologne, à la Motte, et il avait fait des recherches très poussées sur la tarte tatin, avait retrouvé des membres de la famille, les avait interviewés, avait consulté les archives, et avait publié tout ça dans un journal qu'il édite, une sorte de cahier d'études archéologiques de la Sologne. Et il y en avait plus de 100 pages. Alors je me suis dit, c'est quelque chose, c'est une ressource fantastique qu'il faut absolument mettre en ligne de façon à pouvoir en faire bénéficier le monde. Et j'ai mis ça en ligne en me disant, voilà, disons, quelque chose qui fera loi dans le domaine de la tarte tatin. Et comme je n'ai pas eu le temps de m'en occuper beaucoup, je l'ai laissé là. Et j'ai découvert très rapidement que c'est un site qui faisait son chemin, et les amateurs de tarte tatin, les cuisiniers, les journalistes autour du monde le trouvaient, le découvraient et m'appelaient ou m'envoyaient des emails en disant est-ce qu'on pourrait parler, c'est intéressant. Alors, aux États-Unis, la tarte tatin est un dessert très populaire, et tous les ans, dans les plus grands journaux américains, vous avez des articles sur la tarte tatin, des émissions télévisées, même sur la tarte tatin, comment la faire. Des journalistes se déplacent à la mode Beuvron pour voir un petit peu l'endroit, le contexte dans lequel la tarte a été créée. Et donc, c'est quelque chose pour lequel il semble y avoir une demande continue.
Donc oui, c'est vraiment un site qui a son utilité. Et puis voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Français et d'internationaux aussi, mais qui ont grandi ou qui connaissent la tarte et qui s'y intéressent un jour aussi. Il y a quand même de nombreuses, enfin, de ce que j'ai pu du coup en lire, il y a de nombreuses histoires différentes selon les sources autour de cette tarte. Alors, je me demandais en quelques mots, selon vous, quelle est l'histoire la plus historiquement probable ?
Oui, alors il y a quelques faits qui sont bien établis. Alors l'un d'eux, c'est un rapport de la Société géographique, je ne me souviens plus de ce nom exact, mais en fait du centre, qui date de 1902, je crois, que j'ai trouvé dans les archives ici aux États-Unis. Chose un petit peu surprenante, mais ça, c'est l'Internet. Ça aide à trouver des merveilles. Et donc, c'est ce rapport, en fait, décrit la soirée d'un groupe de voyageurs en 1902, qui ont passé dîné à l'hôtel Tatin, à la mode Beuvron, et qui ont donc dégusté la carte, alors la tarte. Donc ça, ça fournit un certain nombre d'informations, de contexte autour de la tarte. Alors là, c'est un document d'origine, d'époque, donc il est indiscutable. Il y a aussi une tradition en Sologne et au-delà, en France, disons, de tartes faites avec des fruits en saison. La Sologne produisait beaucoup non seulement de pommes, mais de poires et autre chose. Et donc, il est tout à fait naturel que les cuisinières de l'époque, qui étaient talentueuses, aient utilisé et mis à profit ces fruits et fait des tartes. Alors, il y avait des tartes renversées, semble-t-il, étaient déjà connues en Sologne, dans le centre de la France à l'époque. Alors, ce n'était pas la tarte tatin, c'était peut-être autre chose qui ressemblait. Il y avait aussi ce qu'on appelle ici aux États-Unis des cobblers. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais disons, ce sont des fruits qui sont dans un récipient avec un dessus, une pâte, disons, un couvercle en pâte, et qui ont d'ailleurs depuis disparu des livres de cuisine français. On les trouve seulement dans des livres anciens. tiens. Donc, est-ce que la tarte tatin a été une combinaison d'un petit peu tout ça? Alors, la petite histoire, c'est que les sœurs étaient occupées, c'était un jour de bousculade, il y avait beaucoup de commotion autour de la cuisine, et par malchance, l'une des sœurs a fait tomber la tarte, il n'était pas question d'en refaire une autre, donc elle l'a ramassée tant que mal, elle l'a remis dans son plein, elle l'a cuisinée, et puis à la fin du compte, une fois cuite, elle l'a retournée, et c'est là qu'elle a découvert le caramel. Alors, il y a peut-être un petit peu de mythologie là-dedans, c'est une belle histoire,
c'est
néanmoins.
C'est toujours intéressant d'avoir des jolies
mais,
histoires.
Il est remarquable que les sœurs, elles-mêmes, n'ont jamais publié de recettes, elles n'ont jamais publié de cuisine, elles n'ont même pas appelé leur tarte la tarte tatin, ça s'est arrivé après leur décès, donc... Ce n'était pas un acte de création où elles se sont décidées un jour, ah ben voilà une chose intéressante, on va en faire la promotion. Non, il semble qu'elles aient construit en fait sur la tradition locale, avec d'ailleurs l'évidence historique qu'on a pu retrouver semble indiquer qu'elles n'étaient pas avares de partager leurs recettes avec leurs clients, avec leurs amis, disons la communauté locale. Il est probable qu'elles aient reçu en retour des conseils, des suggestions pour améliorer la tarte. Donc, il y a eu un processus de création collective qui, progressivement, a évolué dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tarte tatin.
Et pour terminer cette émission, une version de la recette de cette célèbre tarte tatin. Moi, j'en profite pour vous demander si vous avez une recette... une version de recette de la tarte tatin en quelques mots, voilà, ou avec plus de caramel, avec moins de caramel, retourné par retourné, comment...
Oui, alors la tarte tatin, bon, c'est un dessert universel maintenant, on le trouve dans tous les pays du monde, et grâce au site, j'espère que les recettes savoir-faire s'améliorera petit à petit, mais l'une des raisons pour lesquelles c'est un dessert très populaire, c'est que c'est un dessert qui est en fait très facile à faire et qui est très bon marché. Il y a seulement 4 ingrédients, il y a du beurre, de la farine, du sucre et des pommes. Et c'est tout.
Voilà.
Ça, c'est la recette originale. Il n'y a pas de calvados, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de cannelle. Donc, dans sa recette originale, c'est quelque chose qui est très simple. Et, mais alors pour le faire, il faut avoir des instruments qui s'y prêtent. Et dans le cas de la tarte tatin, l'instrument qui est à mon avis obligatoire, c'est une poêle en fonte, donc même pas émaillée, en fonte carrément, qui fait environ 25 cm de diamètre. Alors pour la faire, c'est très simple, vous prenez du beurre, vous enduisez copieusement le fond de la tarte de beurre, vous mettez du sucre, et j'utilise du sucre roux parce que ça donne davantage de goût, donc du sucre roux, vous saupoudrez généreusement le beurre de sucre roux, vous prenez 1 kg de pommes ou 1,5 kg de pommes, et vous les coupez, alors moi je les coupe en 4, c'est très simple, et j'enlève les pépins, je les dispose une sorte de rosace, alors bien sûr inverser la face coupée par en bas contre le fond de la poêle, et vous les disposez en rosace, et ensuite vous coupez l'écart en plus petits morceaux pour combler les trous, donc vous arrivez à une épaisseur de pomme qui est d'environ 2,5 cm, 3 cm. Et là, vous mettez sur un feu vif sur la cuisinière. Donc, une fois que la vapeur est bien partie et qu'il n'en sort plus beaucoup, vous retirez la poêle de la cuisinière et là, vous roulez une abaisse de pâte d'environ 3 mm d'épaisseur qui fait un peu plus large que la poêle. Donc, si votre poêle fait 25 cm, votre abaisse fait entre, disons, 29 et 30 cm. Et là, vous la déroulez sur une fois que la poêle s'est un petit peu, est moins chaude, vous la déroulez sur le dessus de la tarte et avec une spatule, vous la, vous, dans, comme disais-je, enfoncer les bords le long de la tarte, un petit peu comme on borderait un lit, quoi, en quelque sorte, et puis vous la mettez au four. En faisant quelques petits trous avec une fourchette de façon à ce que le reste de la vapeur continue de s'évacuer. Donc vous faites quelques trous dans la pâte et vous la mettez au four, alors un four chaud qui fait environ 375-400 degrés et pendant 15-20 minutes, une fois que la pâte acquiert une belle couleur dorée. Et là, vous la ressortez et vous l'inversez pratiquement immédiatement. Donc, c'est facile à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, oui. C'est bon marché et c'est spectaculaire.
Et c'est toujours très bon. Alors, petite précision.
Et c'est toujours très bon.
On a dit 375 degrés, on est d'accord qu'on n'est pas en degrés Celsius. Sinon,
ça c'est des Fahrenheit. Alors, en degrés Celsius, c'est environ 200 degrés.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Mais du coup, je précise pour les gens qui écouteront quand même que personne ne crame sa tarte tatin. Ce serait dommage.
Oui.
D'accord. Et donc, on commence dans une poêle et elle termine au four. Ça, c'est un oui. détail important quand même.
Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout un très bon appétit.